uniquement sur la molécule qui est annoncée comme la molécule active, donc le glyphosate pour les pesticides classiques. Donc il n'y a que cette molécule-là qui est analysée, pas les autres. Elle n'est pas analysée par la Cour de justice, par la Commission européenne, mais par le pétitionnaire. C'est lui qui fournit les études. Donc Monsanto fournit les études pour démontrer que son produit est sans danger. L'effet cocktail n'est pas du tout étudié, c'est-à-dire que là, bon, on va arrêter le film, hein, c'est pas la peine de continuer là-dessus. Hein. S'il est muet, c'est intéressant, mais enfin, voilà. Autant me voir moi ici directement en direct, je vais vous dire les mêmes choses. Donc en fait, les pesticides ne sont absolument pas évalués dans leur ensemble. C'est-à-dire que le bidon que vous achetez en jardinerie, puisque c'est interdit maintenant, n'a jamais été évalué dans son ensemble. C'est donc une méthode d'évaluation qui est totalement caduque, totalement déficitaire, et qui permet de mettre sur le marché des produits sans aucune évaluation correcte. Donc voilà, ça c'est un point important qui a fait que ces procès ont débouché là-dessus. C'était en 2017. Fin 2017, comme je disais tout à l'heure, on va peut-être allumer là, peut-être. Parce que alors là, maintenant, quand même, qu'on ait au moins une image, quoi. Donc en 2017, on avait saisi la Cour de justice européenne, elle ne s'est toujours pas prononcée 2 ans après. Hein. Donc le temps de la justice, le temps des politiques, on l'a vu aussi, hein, ça a été renouvelé pour 5 ans.
Derrière, il y en a d'autres.
Ah bah, ça y est, maintenant, il y a le son. Bon, on va falloir choisir, là. Allez, on arrête là, tant pis, il n'y aura pas de film. Peut-être le petit film, le petit teaser de la campagne passera tout à l'heure, on verra. Donc, on s'est dit, la justice, vous voyez, là, ça a mis 2 ans, c'est toujours pas passé. Les politiques, on a vu les résultats, c'est renouvelé pour 5 ans. Notre chef d'État avait annoncé, dans 3 ans, ça sera interdit. Il a annoncé 1 an et demi après que finalement, ça ne serait pas le cas. De toute façon, là, 1 an et demi était passé, donc on arrive quasiment dans les délais. Donc voilà, on s'est dit, c'est pas possible d'accepter qu'on soit empoisonné au quotidien et qu'on attende après ces gens-là pour arriver à aboutir à quelque chose qui nous mette en sécurité sanitaire. Comme l'État n'a pas travaillé dessus, il n'y a aucune étude sanitaire sur les effets du glyphosate et des pesticides en général, il était évident qu'on devait s'en mêler. Et est née l'idée, puisque nous avions, pour préciser ça quand même, c'est important, pour aller au procès, nous avions fait nos analyses d'urine devant huissier pour venir devant le tribunal en disant, voilà, on n'est pas que des lanceurs d'alerte, on est aussi directement concernés. On avait d'ailleurs proposé au président du tribunal de lui payer ses analyses. Ça l'a fait rigoler, mais ça n'a pas abouti. Donc, il était clair qu'il fallait qu'on aille plus loin que d'attendre que ces messieurs décident de s'occuper de notre sécurité alimentaire. D'où la campagne, qui avait comme but principal au départ de faire prendre conscience, à travers la multiplicité des analyses et le fait que ça soit partout en France, de faire prendre conscience à tout le monde que tout le monde en a. Ce qui est aujourd'hui, là aujourd'hui on a 1200 analyses de fait, tout le monde en a, des bébés, hein, puisqu'on a fait des analyses d'urine de bébés, des ados, des citadins, des urbains, des personnes âgées, tout le monde en a, et à des taux qui décoiffent. Hein. Et moi, quand j'ai appris le taux que j'avais, je peux dire que ça a décoiffé. Hein. Alors, je vous dis pas quand je décoiffe, ça se voit. Dans le sens où, bon, moi, je vis en Ariège, comme vous le savez, comme on l'a dit.
Appris cette question.
Bon, donc je continue. Je viens d'Ariège, je ne sais pas si vous connaissez l'Ariège, mais c'est une région, une jolie région. C'est naturel, hein, c'est. Hein, ouais, hein, c'est une belle région. Hein. Région, bon, surtout toute la partie un peu plus au sud. La basse Ariège, c'est céréalier, mais. Autrement, ce sont les coteaux des Pyrénées, c'est boisé, c'est verdoyant. Il n'y a pas de culture, vraiment. Je mange bio depuis très longtemps, je suis végétarien. Et je me suis retrouvé avec 3,4 34 dans mes urines, 3 nanogrammes par millilitre, c'est-à-dire un taux important. Pour vous donner une référence, l'eau potable en Europe, le taux autorisé en Europe, dans l'eau potable, c'est, on va pas comparer l'eau potable et les urines, hein, n'exagérons pas, mais pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 0,1 nanogramme. D'accord? Donc moi, je me retrouvais avec 34 fois ce qui est autorisé dans l'eau potable. Et aujourd'hui, le record est de 4. Hein, pas en Ariège, mais dans d'autres départements. Donc on a tous du glyphosate. La moyenne des 1200 analyses qui ont été faites aujourd'hui est à peu près de 1,1. Donc, sachant que beaucoup de ces analyses ont été faites décembre, janvier, février, c'est des périodes où il y a très peu de traitements. Hein, donc, c'est des périodes où les taux sont les plus bas. Nous allons voir dans les mois qui viennent cette courbe remonter et retrouver des taux importants. Et je crains, sachant ce qu'on a nous en Ariège, je crains ce qu'on va retrouver dans les zones viticoles, les zones céréalières, les zones de culture de fruits, qui sont des zones très très traitées. Hein. Donc voilà, l'idée de la campagne, c'était d'abord de démontrer ça pour que on prenne conscience de ça, nous, citoyens, qu'on est tous contaminés, que les utilisateurs prennent conscience que, quelque part, ils nous amènent ce genre de situation où nous, on n'a rien demandé. Hein. Moi, j'ai jamais utilisé ces produits-là. Et pour que les décideurs se décident enfin à prendre les bonnes décisions. Hein, donc, mais faire le constat, faire le bilan, ne nous suffisait pas. Nous, on est des faucheurs, on est des activistes. On s'est dit, avoir le bilan, c'est bien. Poser un acte derrière, c'est mieux. Renvoyer la violence que l'on reçoit lorsqu'on récupère les résultats, je vous garantis que lorsqu'on sait qu'on en a autant, ça fait mal, hein, ça fait drôle. Il y en a des gens qui éclatent en sanglots, d'autres qui sont très en colère. Donc on s'est dit, il faut renvoyer cette colère, il faut renvoyer ça à ceux qui nous l'ont provoqué. Et c'est de là qu'est venue l'idée de la plainte. Et je vais en parler plus longuement après, hein, mais je ne voudrais pas trop m'étaler, je vais plutôt essayer de faire qu'on discute. Donc l'idée est donc de porter plainte derrière pour aussi lancer comme message à ceux qui décident, à ceux qui utilisent, c'est attention, il y a des citoyens aujourd'hui qui se lèvent pour vous demander des comptes. Vous allez sortir de votre tour d'ivoire pour les décideurs et votre tour doré pour ceux qui font de l'argent là-dessus, parce qu'ils sont anonymes ces gens-là, on les connaît pas, ils décident pour nous, mais on ne sait pas qui c'est. Là, la plainte va amener à avoir des noms, des visages, et pouvoir leur demander des comptes, leur demander comment se fait-il qu'ils acceptent de nous empoisonner au quotidien. Hein, nous sommes, quelque part, les fumeurs passifs du glyphosate, on n'utilise pas. Alors je mets à part, bien sûr, les agriculteurs qui l'utilisent, et il y en a, et qui aussi doivent prendre conscience que le problème est grave et qu'ils sont les premières victimes, et les plus grosses victimes des pesticides, évidemment. Mais en tout cas, nous, enfin moi, personnellement, et je pense que dans la salle, on est sans doute assez nombreux à n'avoir jamais utilisé ces produits, ou alors il y a très longtemps, par méconnaissance, on a quand même en permanence, on urine en permanence du glyphosate dans nos urines. Donc ça, c'est totalement inacceptable. Voilà, donc la plainte est un moyen de prévenir ceux qui sont décideurs et ceux qui vont les remplacer, que les citoyens seront prêts à se lever pour dire on refuse, on ne veut plus. Les pesticides, on n'en veut plus. Alors je vais peut-être m'arrêter un peu, il y a un micro-baladeur, je pense, qui est prévu. Est-ce que quelqu'un pourrait faire la navette? Est-ce que vous avez déjà des questions un peu ou des réactions par rapport... Évidemment, le film n'étant pas là, ça retire beaucoup de l'argumentaire, hein, mais on va essayer de passer plus de temps à papoter, ce qui n'est pas plus mal non plus, hein, finalement. On va, pour que tout le monde comprenne la question, il vaut mieux que ça soit fait au micro. Ça permet de...
J'ai pas compris contre qui était portée la plainte.
Voilà, je l'ai pas dit. Donc je vais le dire, c'est l'occasion, c'est exactement le genre de question que j'attends pour alimenter. Alors, ce sont d'abord, pour préciser, ce sont des plaintes d'individus. Hein. Il n'y a pas de class action, il n'y a pas de possibilité de poser des plaintes collectives. Donc si chacun porte plainte en son nom. Ça c'est déjà un premier point. Des petites bribes comme ça. Donc on porte une plainte individuellement contre des individus. On a refusé l'idée de porter plainte contre des organismes. Ça, c'est le premier point important. Parce qu'on porte plainte contre Monsanto, par exemple. Monsanto est racheté par Bayer. L'étiquette Monsanto disparaît, la plainte part avec. Bon, on va laisser tomber le film, tant pis. Vous avez le son ? Est-ce que vous voulez continuer avec le film ? Bon, je finis juste sur la plainte pour répondre à monsieur, quand même, pour aller jusqu'au bout de la démarche. Ça méritera de le redire tout à l'heure. Donc, plainte individuelle contre des individus. Je continue, laisse-moi finir. Les individus, ce sont... On va toucher toute la chaîne des fabricants aux décideurs. D'accord ? Donc, les individus, c'est une plainte qui est sur un laps de temps, c'est sur les présidents et membres des différents groupes que je vais citer. Et c'est sur un laps de temps pour que le juge d'instruction, quand la plainte sera instruite, qu'il puisse mettre des noms. Donc c'est les deux derniers trimestres 2017, le premier trimestre 2018. Sur ce laps de temps, on porte plainte contre les PDG et les membres du CA de toutes les boîtes qui fabriquent des pesticides à base de glyphosate. Ça, c'est pour les fabricants. Pour les décideurs, on porte plainte contre le président, et je ne vais pas le répéter à chaque fois après, contre le président et les membres de la Commission européenne, qui ont relancé les autorisations pendant 5 ans. Contre le comité d'appel de la Commission européenne, qui a travaillé à trouver un accord entre les États membres fin 2017, qui est la Commission voulait 10 ans, ils ont réussi à obtenir à 5 ans. Contre l'EFSA, qui est l'organisme certificateur et l'organisme de santé européen, donc président et membre, hein, je répète pas. Pour l'équivalent français, l'ANSES, l'équivalent allemand, le BFR, qui a beaucoup travaillé à favoriser ce renouvellement, contre l'ECHA, qui est l'organisme qui travaille à la mise sur le marché de tous les produits chimiques en Europe, contre les laboratoires complices, ceux qui ont signé des études qui ont été faites par Monsanto en disant que c'est eux qui les avaient faites. Et il y en a pas mal. Voilà. Ça, ce sont les cibles. Donc ça fait du monde. À chaque fois, c'est des dizaines et dizaines de gens. Deuxième point, c'est une plainte au pénal, pas au civil. On ne demande pas des contreparties. On veut que ces gens-là soient mis devant un tribunal et qu'on puisse leur demander des comptes. On ne cherche pas à en tirer de l'argent. Ça, c'est aussi un point important qui a un sacré impact au niveau médiatique aussi et dans l'image de la campagne. Et dernier point, on porte plainte. Pourquoi ? Quelles sont les incriminations que l'on propose ? C'est mise en danger de la vie d'autrui. C'est tromperie aggravée. Les Monsanto Papers ont démontré que Monsanto était au courant de la dangerosité. Les études qui ont été falsifiées. Les laboratoires qui ont signé, ceux-là, on les poursuivra pour ça. Et atteinte à l'environnement, puisqu'il est évident aussi que la perte de biodiversité est évidemment liée aussi à l'usage de ces cides, hein, puisque tous ces cides sont des trucs qui tuent. Hein. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. Hein. Alors, juste une chose, les faucheurs, je ne sais pas si vous le savez, sont toujours poursuivis, et toujours en réunion. Et on s'est dit, mais eux aussi sont en réunion. Donc on a rajouté en réunion. C'est un facteur aggravant. Hein. Et on a ouvert la porte au fait que si en cours de l'instruction, il découvre d'autres raisons, d'autres délits, entre autres conflits d'intérêts, et il y en a, et autre chose que libre au juge d'instruction de rajouter des incriminations à celles qu'on leur propose. Voilà. C'est pour clôturer le sujet plainte, on pourrait y revenir sur des détails. Voilà. Et on essaye le film, alors, cette fois-ci. Ça marche ? Alors, place au cinéma. Et à tout de suite. Les premiers concernés directement dans leur être et dans leur famille et dans leur environnement, dans leur entourage, sont les paysans et les agriculteurs. Donc voilà, et qui malheureusement, on leur a tellement appris à se servir de ça qu'ils n'ont pas, ils ont eu beaucoup de mal à faire le pas. Et on les aide pas beaucoup non plus d'ailleurs, hein, parce que nous, notre projet, c'est l'interdiction immédiate des pesticides chimiques. Le glyphosate étant un marqueur, hein, évidemment, mais nous, c'est les pesticides de manière générale. Et interdiction immédiate et transition après. On interdit et après, on crée la transition et on aide avec des finances, on aide les agriculteurs à passer à autre chose. Mais il faut commencer par interdire. Il ne faut pas attendre la transition comme nous le prétend aujourd'hui, attendre à trouver des solutions autres qui existent. C'est du pipeau. Il y a plein d'agriculteurs, et Alain Moll était un exemple vivant, il le dit lui-même, à l'époque, qu'on peut faire autrement. Donc les alternatives existent. Évidemment, ça demande une remise en question d'un système culturel. Évidemment que lorsqu'on a 350 hectares de céréales, c'est beaucoup plus compliqué de passer à autre chose. Mais voilà, il faut quand même à un moment donné que la raison reprenne le dessus et que la santé publique soit prise en compte. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus maintenant. Normalement, je crois que dans le déroulement de la soirée, il y a une pause. Vous allez pouvoir digérer tout ça, puis après on va parler vraiment de la campagne et repartir sur un dialogue avec vous et l'explication de comment ça se passe et pourquoi. Voilà, merci. Petit café, gâteau. On va redémarrer en douceur avec un petit teaser, on dit maintenant, un petit clip qui présente un peu la campagne, ou en tout cas qui a servi à la diffuser en France. Et après, on va attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire comment se déroule la campagne, les prélèvements, les huissiers, enfin tout le système qui va permettre de mieux comprendre comment cette campagne s'articule et quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour qu'elle soit irréfutable. Donc, allez, je vais essayer de tracer rapidement les grandes lignes de la campagne, et puis après, c'est vraiment échange, questions, et voilà. D'abord, comment tout ça commence? Ben, tout simplement, on s'inscrit. Vous avez de l'autre côté du rideau rouge des tables où vous pourrez vous inscrire si vous le souhaitez pour participer à cette campagne. Donc, on s'inscrit et on choisit en amont. On choisit si on veut simplement faire nos analyses ou si on veut porter plainte. Pourquoi ce choix se fait-il tout de suite? C'est parce que ça n'a pas tout à fait le même coût. Évidemment, ça a un coût. Alors, on va parler sous. Ça, c'est quand même important. Les analyses, prix coûtant, en considérant l'envoi au laboratoire, les petites fioles et le prix de l'analyse, ça revient à 85 euros. Ça, c'est déjà première chose. Donc, pour savoir son taux de glyphosate, il faut être prêt à y mettre 85 euros. Là, on a juste le résultat. Si on veut porter plainte, ces prélèvements se font devant l'huissier. L'huissier est là, présent, et ne quitte pas les fioles, et c'est lui qui les expédie au laboratoire. C'est-à-dire, il n'y a aucun moyen de contester la réalité des prélèvements. On sait que les cyclistes arrivent à ramener l'urine de leurs copains pour ne pas passer, pour passer au niveau du contrôle antidopage. Nous, on ne veut absolument pas risquer ce genre de critique. Donc, pour être plus précis, nous, on a une huissière, un huissier, on a deux vestiaires, et les gens se présentent en sous-vêtements ou en maillot de bain. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'il est question, il n'est pas question devant un tribunal qu'on puisse nous dire c'est du pipeau, vous truandez, et de remettre en cause toute la validité des prélèvements. Je veux dire, ça représente un coût, ça représente un investissement, temps, argent. Il n'est pas question que l'on puisse contester les résultats. Donc les gens il y a un vestiaire qui est organisé, les dames vont avec l'huissière, les hommes avec l'huissier. Et les gens se mettent en sous-vêtements ou maillot de bain, vont uriner dans les petites fioles, le remettent à l'huissier qui, lui, ne les quitte plus, et c'est lui qui l'expédie au laboratoire. Voilà, c'est le principe général. C'est beaucoup plus détaillé que ça et c'est beaucoup plus précis pour justement éviter toute contestation. Alors, au début, on avait même envisagé que l'huissier assiste à la miction. Mais on a senti que ça posait problème et on n'est pas allé jusque-là. Mais par contre, lui va vérifier que les WC sont vides. Hein, il vérifie qu'il n'y a rien dans les WC, que tout est propre, qu'il n'y a pas de rien qui a été déposé. Et, et il vérifie que les fioles sont d'origine, dans l'emballage d'origine, et il fait un constat, un procès-verbal de constat, dans lequel il y a des photos, il y a tout ça. Hein. Donc, ça rend, c'est devant un tribunal, ça rend les prélèvements corrects et non contestables. Ça, c'est vraiment important, parce que là, on est à, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a à ce jour 1200 analyses qui ont été faites. Sur les 10 200 analysées, comme on sait à l'avance qui veut porter plainte, qui ne veut pas porter plainte, on a plus de 1100 personnes qui veulent porter plainte, la grande majorité. Et on a des milliers d'analyses en perspective. Donc, on ne va pas mettre tout en question, risquer de tout perdre sur une contestation ou sur quelqu'un qui voudrait, pour démontrer que la campagne est pipeau, qui viendrait faire une analyse truquée. Donc, le point du prélèvement, c'est le point le plus important de la campagne. Il faut qu'elle soit faite d'une manière très stricte, rigoureuse, il y a des protocoles. Ça, c'est le premier point qui est primordial. Une analyse des prélèvements faits correctement, devant des huissiers sérieux. On a même un cahier des charges pour les huissiers, on leur impose des contrôles. On demande à ce que ça soit totalement rigoureux. Voilà. Donc, les analyses se font évidemment avec les premières urines du matin. Donc, évidemment, on ne va pas les faire à 10 heures. Hein. Sinon, il va y avoir des dégâts. Il va falloir acheter des serpillères. Donc, les analyses se font à partir de 6 heures le matin. Donc, l'équipe qui organise arrive à 5 heures, prépare tout. Les huissiers arrivent un peu plus tôt pour vérifier que tout est correct. Et ensuite, on commence les prélèvements à 6 heures du matin. En général, à 9 heures, c'est fini. Pour permettre de mieux comprendre les origines et les raisons pour lesquelles on en a autant, et essayer de trouver des corrélations entre ces modes de vie, ces nourritures, où on vit, citadins, ruraux. Il y a un questionnaire qui a été créé, un questionnaire mode de vie, puisqu'on n'a pas le droit de faire des questionnaires santé quand on n'est pas médecin, donc un questionnaire mode de vie qui va permettre au groupe qui s'est créé en Ariège, un groupe scientifique avec des médecins, des biologistes, des cartographes, statisticiens, spécialistes de l'eau, sociologues, qui travaillent à analyser tous les résultats qu'il y aura partout en France, pour essayer de trouver des corrélations entre son mode de vie et les résultats qu'on obtient, et qui fera une publication sur ce sujet pour essayer d'avancer aussi au niveau scientifique. Voilà, la campagne est multiple, elle est multifacette. Il y a le bilan, le constat, il y a la plainte, il y a une étude scientifique, il y a espérer provoquer des études scientifiques d'autres, il y a un procès qui va amener expertise contre expertise. Donc on est en train d'essayer de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. On n'est pas les seuls. Hein. Je citerai Génération Future, qui a fait des travaux aussi, des prélèvements dans les urines. Il y a les coquelicots, il y a les apiculteurs qui ont porté plainte parce qu'ils avaient impossibilité de vendre leur miel. Donc il y a un faisceau d'énergie, un faisceau qui est depuis quelques 2 ans, on va dire, qui est en train de fonctionner et qui permettra, on l'espère, arriver à l'interdiction définitive du glyphosate, mais pas que, hein, puisque comme on le disait dans le film, si c'est pour le remplacer par du 2,4-D ou d'autres produits qui sont ou du Dacomba qui sont déjà là, ça n'a aucun sens. Le glyphosate a été choisi parce que c'est un marqueur qui n'existe pas dans la nature, enfin, qui n'existait pas dans la nature, qui maintenant existe outrancièrement dans la nature, mais qui n'existait pas. C'est une molécule complètement créée. Donc, quand on a du glyphosate, on sait que c'est parce qu'on a ingéré, inhalé ou touché des produits à base de glyphosate. Il y a une molécule qui est une molécule de dégradation, un métabolite, qui est la dégradation du glyphosate, qui est l'AMPA, AMPA. Je vous dirai pas le nom complet parce que c'est imprononçable. Mais on en trouve aussi dans d'autres produits, dans des savons, dans des choses comme ça. Donc on a abandonné l'idée de rechercher l'AMPA. On ne cherche que le glyphosate. Et aussi pour une histoire de coût. Déjà 85 euros. C'est pas donné. On voulait que ça soit le plus démocratique possible. C'est déjà un investissement. Et d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, avant de laisser un peu le débat s'organiser, pour tous les médias qui nous suivent, et il y a beaucoup de médias qui suivent, hein, la campagne glyphosate et les autres campagnes, Coquelicot, Génération Future, je répète, et tous les autres, sont très suivis, parce que les pesticides, c'est un sujet clé, sont très étonnés de la campagne, parce qu'ils disent, voilà, il y a des gens qui se lèvent à 6 heures du matin pour aller uriner, qui payent pour le faire, qui payent pour porter plainte, qui portent plainte non pas au civil pour avoir des dommages et intérêts, mais au pénal, c'est-à-dire sans aucun retour sur investissement. Ils disent c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment une campagne citoyenne. Deux mots sur le coût, ça coûte cher. Nous, on a commencé en Ariège, on a commencé sur fonds propres, comme ici ça commence. Puis au bout d'un certain temps, il y a eu des dons, il y a eu des gens qui ont dit allez, je fais un chèque de 100 euros. On a eu un peu de sous et à partir d'un certain moment, on a pu, et vous verrez dans les questionnaires, on vous demande combien vous êtes prêt à payer. On a pu commencer à participer un peu, ou alors à proposer aux gens à payer en 10 fois, en 15 fois. Donc ça fait des 10 euros par mois, par exemple, ce qui devient accessible pour tout le monde. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de barrière financière. Mais ça, chaque groupe s'organise, et le chapeau qui va tourner tout à l'heure, et les dons d'associations amis peuvent permettre de contribuer à aider, à participer, ou en tout cas à faire l'avance de trésorerie, pour que ceux qui n'aient pas beaucoup de sous puissent payer. Il y a des étudiants qui ont dit, nous, on va se cotiser, on va demander à nos parents. Pour Noël, on va se faire payer une analyse. Il y a un village qui est en Ariège, un petit village qui s'est cotisé pour payer les analyses de 10 personnes. Ils ont fait la quête. Et voilà. Et c'est ça, pour moi, la campagne citoyenne. C'est on trouve les moyens et on s'investit dans un projet comme celui-là. Voilà, je m'arrête là. Et puis, je vais vous laisser maintenant. Le micro va tourner. Et je vous laisse poser des questions, parce qu'il y a plein de questions, j'imagine, qui se posent. On va demander, peut-être faire tourner avec le micro pour que tout le monde entende les questions. Je sais bien que c'est pas toujours facile de parler au micro, mais voilà, ça va le faire. C'est madame qui est là.
Ouais, donc une fois qu'on est OK pour faire cette analyse d'urine, au niveau du département ou du groupement, là, glyphosate 12, là, il va y avoir une convocation collective, c'est ça l'idée ? On attend qu'il y ait un nombre X de gens pour que ça se fasse.
Voilà. Nous, en Ariège, on a attendu d'avoir 200 personnes inscrites, puisque quand on invite 50 personnes, on fait des groupes de 50. On fait des groupes de 50 parce que ça couvre les frais d'huissier. L'huissier, c'est quand même 250 balles de l'heure, en tout cas, tarif syndical. Donc, pour que les 50 euros qui servent pour la plainte puissent couvrir les frais d'huissier, il faut des gens, il faut à peu près 25 personnes par huissier ou une trentaine. Et puis au-delà, c'est compliqué parce que les derniers qui passent, ils passent un peu tard. Et ça commence à devenir difficile. Voilà. Et je pense que j'ai répondu à la question. Ouais. Et effectivement, c'est collectivement que ça se passe. Pour mutualiser les frais, évidemment.
Merci. Dans la même idée, vous avez donc dit que lorsque on est d'accord pour uriner mais déposer plainte, vous n'avez pas donné le tarif. Est-ce que ça change de tarif ?
Oui, c'est 50 euros de plus pour le huissier.
Je ne l'ai pas entendu.
Ah oui, je ne l'ai pas dit peut-être. C'est possible que je ne l'ai pas dit. J'ai dû l'oublier.
D'accord, donc c'est 85 voilà. Plus 50.
85 plus 50. C'est pour ça que la décision se prend avant.
D'accord.
Parce que si on décide de ne faire que 85, ça ne sera pas fait devant huissier. Donc, ça n'ira pas jusqu'à la plainte.
D'accord.
Donc, c'est un engagement dès le départ. Mmh. Et donc, il y a des sessions où on peut faire... les gens qui portent plainte passent devant huissier, puis il y a un troisième lot qui passe à côté sans porter plainte, qui ne déshabille pas, qui ne rentre pas dans le circuit plainte.
Évidemment,
donc, effectivement, ouais. Ça coûte 135 euros globalement. Et encore, avec des huissiers raisonnables, parce que là, il y a à Paris, par exemple, ils ont lancé la campagne, les tarifs ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est un peu compliqué pour eux de boucler le budget avec 135 euros. Il faut savoir que ces 135 euros ne servent qu'à la campagne. Il n'y a pas de salariat, tout le monde est bénévole. Donc c'est vraiment le prix coûtant. Nous, en Ariège, nos huissiers ont fait un petit prix. Donc on paye un peu moins cher et ça nous permet justement de participer au prélèvement de certains. On a eu des familles avec 3 enfants qui ont fait leur prélèvement. Ça nous a permis d'aider à payer les analyses des enfants, par exemple.
Et juste une deuxième question de précision. Si on voulait faire les analyses par toutes les personnes de notre famille, mais qui n'habitent pas forcément toutes au même endroit, il faut que les personnes le fassent individuellement là où elles résident, c'est ça ?
C'est plus facile, parce que si vous avez 200 km à faire à 5 heures du matin sans avoir uriné depuis minuit, je peux vous dire que ça risque d'être chaud.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est décidé, là on parle de l'être humain, mais aussi au niveau de notre planète Terre, par rapport à tout ce qu'elle a ingurgité de glyphosate, au niveau du procès qu'on pourrait intenter à son avis?
Il y avait donc trois incriminations que l'on proposait à l'instruction. Mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et atteinte à l'environnement. Donc la planète, évidemment, c'était une évidence pour nous que la chute de la biodiversité, on sait que c'est très lié. Hein, je raconte toujours, moi il y a quelques années, quand je roulais en bagnole, il fallait que je nettoie mon pare-brise très régulièrement. Ça ne m'arrive plus jamais. Donc ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup moins d'insectes. Et il est évident que tous ces produits en CID, hein, qui veulent dire tuer, sont en partie, pas que, mais en partie responsables de la chute du nombre d'insectes, donc des oiseaux, donc enfin, toute la chaîne. Et donc on a aussi considéré que de porter plainte aussi pour l'atteinte à l'environnement était d'une évidence. Voilà, c'est une réponse à, un peu peut-être à votre question.
Bonjour. Du coup, moi, je vous repose la question pour tout le monde. C'est une fois qu'on a que nous ou la Terre a ingéré ce produit, combien de temps il va lui falloir pour l'éliminer ?
Alors, c'est pas du tout le même temps entre ce qu'on ingère nous et ce que va recevoir la Terre. D'abord, c'est pas les mêmes quantités, c'est pas les mêmes fréquences, même si on en ingère tous les jours. Et d'autant plus difficile de répondre, c'est qu'il n'y a pas d'étude là-dessus. C'est aussi une chose qu'on aimerait qu'il se fasse. Justement, il serait temps peut-être qu'on sache quels sont. On sait vaguement au niveau des animaux qu'à peu près 30% de ce qui est évacué, on ne sait pas ce qui reste, ça n'a jamais été étudié dans le corps, mais au niveau de ce qui est évacué, il y a à peu près 30% qui est évacué par les urines et presque tout le reste, un peu par la sueur, par la transpiration, ce qui est un peu la même chose que les urines, et tout le reste par les selles, par les matières fécales. Hein, donc la grosse partie est évacuée par les matières fécales. Nous, on a choisi d'analyser l'urine pour des raisons concrètes, c'est quand même un peu plus facile à faire, plus agréable, enfin, si on peut parler d'agréable. Le gros est évacué par les matières fécales, la très grosse majorité, et le reste par les urines. Après, qu'est-ce qui reste dans le corps? Ce ne sont pas des métaux lourds, donc ça ne se stocke pas de la même façon dans les graisses. Mais il n'y a pas vraiment d'études là-dessus. Encore une carence. Ça aurait dû être étudié avant que ces produits soient mis sur le marché. C'était au moins étudier quelles sont les conséquences de stockage, quel est le stockage. Par contre, on sait qu'on en urine tout le temps. Puisque jusqu'à maintenant, tout le monde en a. Sur les 1200 analyses, tout le monde en a. Et s'il y a 5000 et s'il y a 10 000 analyses, tout le monde en a. Ça veut dire qu'à tout moment de l'année, statistiquement, ça veut dire qu'on en urine tout le temps. Donc, puisqu'on l'évacue, en moins en partie, qu'on en ingère tous les jours. D'accord ? Donc la question, elle est justement là. On en ingère tous les jours, on en respire. Il y a eu en 1995 des analyses d'eau de pluie qui ont été faites sur Rennes. Il y avait déjà 3 fois la dose autorisée dans l'eau potable qui pleuvait. D'accord ? Ce qui peut expliquer que les copains qui vivent en montagne, qui ont leurs sources, leurs légumes de jardin et qui les mangent, ont jusqu'à 3,4 nanogrammes par millilitre, alors qu'ils ne mangent que leurs légumes de jardin, et qu'ils sont végétariens, et qu'ils vivent dans la montagne, ils se croyaient à l'abri. Sauf qu'il pleut où, en général? Sur les massifs forestiers et sur les massifs montagneux. Donc voilà, on est à l'abri nulle part, il y a des pollutions en permanence, on a dans nos vêtements, quand on n'a pas de coton bio et qu'on a des cotons normaux ou des pantalons normaux, comme on peut acheter en général, eh ben, il y a des glyphosates dedans, il y a des pesticides dedans. Donc c'est permanent. Nous, c'était ce printemps, on va faire des analyses de pluie à différents points d'Ariège plus ou moins, en s'éloignant de plus en plus des zones de traitement, et on va faire des analyses de pluie pour voir ce qu'il y a et quelle est la progression ou la diffusion. Parce que malgré tout, il faut savoir que quand on traite, c'est généralement quand il fait beau. Hein ? Et quand il fait beau, on sait qu'il y a une très grosse partie qui s'évapore. Ça, c'est clair, c'est connu. Et quand ça s'évapore, ça va où ? Dans l'atmosphère, dans les nuages. Et quand c'est dans les nuages, un jour ou l'autre, ça retombe. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc nous, on s'est quand même rendu compte à travers ces 1200 analyses. Et surtout en Ariège, on en a déjà fait 300 et on en a encore pas mal à faire. On essaie de les ponctuer sur l'année. Et on se rend compte qu'il y a des périodes où il y a des chutes très nettes et des moments où ça remonte très fort. Hein, nous, on a vu des taux de 1 à 3 en moyenne sur 50 personnes et 50 personnes plus tard. Donc tout ça, c'est étudié par nos scientifiques, par les statisticiens. Et on va essayer de faire avec les cartographes des superpositions entre les traitements, la qualité de l'eau et les résultats. Voilà, pour essayer de trouver des réponses.
Je vous remercie beaucoup pour ces précisions. Et alors, je voudrais rebondir sur quelque chose, donc un nouveau label qui va sortir au niveau de l'agriculture, en tout cas ça a l'air bien en route, et qui s'appelle l'agriculture sur sol vivant. Donc c'est une agriculture qui prône un sol couvert pour éviter l'érosion des sols, et ça c'est une très bonne chose, c'est pas complètement nouveau. Et une agriculture qui veut nous expliquer que le glyphosate à microdose, c'est biodégradable et sans danger. Donc il vient d'y avoir une grande messe à Paris. Alors ils sont très habiles parce qu'ils font venir des gens très intéressants au niveau agronomique ou botanique ou dans l'agroforesterie, des pointures hein, qui depuis longtemps d'ailleurs travaillent pour le vivant, pour le vrai vivant. Et là, ils viennent d'abattre vraiment leurs cartes, puisque ils ont déployé les bannières Bayer-Monsanto comme financeurs de ce nouveau label. Et ils ont beaucoup d'argent, et ils savent très bien communiquer. Donc, il doit y avoir des agriculteurs dans la salle ou des futurs consommateurs de ces produits qui peut-être vont arriver dans les boutiques. Ne les achetez pas. Et donc, il y a un article qui est sorti dans une revue professionnelle pour les professionnels du bio, qui s'appelle Biolinéaire, que j'ai récupéré aujourd'hui. J'en ai fait une photocopie pour les gens de glyphosate, de la campagne glyphosate 12. Mais cet article, donc, de Claude Aubert, a été repris dans Le Point du 25 février. Donc, vous pouvez accéder à l'article sur Internet. Et peut-être qu'il y a eu des articles déjà dans d'autres journaux, et informez-vous, c'est important. Le glyphosate, comme vous venez de l'entendre, et voilà, c'est pas sans danger.
Juste une petite réponse. Hein. La biodégradabilité du glyphosate a valu à Monsanto une plainte et une condamnation il y a quelques années, parce que c'était sa publicité. C'était le glyphosate est biodégradable, et c'était mensonger, et il a été poursuivi et condamné pour ça. Et quant à la couverture du sol, c'était un projet des bio au départ, hein, de ne pas retourner le sol et de travailler sur des semis sur sol couvert, sauf que ça a été repris par l'agro-industrie, où la méthode est toujours la même, sauf que pour au lieu de, par exemple, de couper, de prendre des engrais verts, ils ont replanté sur un sol qu'ils avaient d'abord désherbé avec du glyphosate. Donc il y a une sorte de dévoiement d'un projet qui était au démarrage un projet prôné par les bio et qui a été ensuite complètement détourné avec des traitements post-prélevés sur des sols qui étaient avec un couvert végétal. Donc voilà, c'est des manières de détourner les choses et je suis d'accord là-dessus.
Est-ce qu'il existe un désherbant positif, bien,
j'ai beaucoup naturel. De mal à dire. Ouais, naturel peut-être. Bien, il y a toujours des effets secondaires. Hein. Le meilleur désherbant, c'est le désherbant mécanique, on va dire. Hein. C'est-à-dire manuel ou machine, mais mécanique. Même le vinaigre le vinaigre blanc est un désherbant. Hein. Mélangé avec de l'eau, mais ça détruit aussi les micro-organismes. De toute façon, tout ce qui va être entre guillemets ou avec la terminologie, le préfixe, le suffixe seed, donc herbicide quel qu'il soit, tue de toute façon. Donc il y en a des moins pires que d'autres. Juste pour information, il y a un Roundup à base d'acide acétique, donc en gros à base de vinaigre. Et on parlait tout à l'heure des coformulants, etc. Si la molécule active déterminée, enfin annoncée par Monsanto, c'est le vinaigre, évidemment qu'on va dire que c'est pas dangereux. Sauf qu'il y a tout le reste. Donc voilà. Je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé des herbicides naturels et non dangereux. Peut-être en existe-t-il, mais il faut être prudent, quoi. Il faut être prudent.
Oui.
Pardon ? L'eau chaude, oui, avec du sel, mais bon, il y a des effets secondaires, de toute façon, sur le sol. L'eau chaude, tu mets de l'eau bouillante sur un sol, tu vas tuer les vers de terre qui sont en dessous, quoi.
Oui, quel laboratoire vous avez choisi pour faire les analyses, et est-ce que vous avez pu vous assurer que ce laboratoire n'est pas un cheville, on veut dire, d'une façon ou d'une autre, par derrière ou autrement, par Monsanto et les autres autour de Monsanto qui ont des intérêts à ce que ça se passe comme ça se passe.
On a travaillé presque un an à mettre cette campagne en route, hein, et on a fait des recherches de laboratoire. Évidemment, on a cherché différents laboratoires. On a eu beaucoup de refus. C'est-à-dire, au départ, pas de refus, puis après, trois jours après, non, finalement, ça ne nous intéresse pas. Donc là, on a su qu'il y avait sans doute des meilleurs clients que nous, qui auraient trouvé pris ombrage du fait qu'on fasse des analyses chez eux. On a choisi le même laboratoire qu'avait utilisé Génération Future. C'est un laboratoire allemand qui est certifié depuis 1997, qui utilise une méthode qui nous intéressait, la méthode ELISA. Elle nous intéressait pour deux raisons, c'est qu'elle a un seuil de détectabilité intéressante, assez basse, hein, 0,075, et qui est fiable, qui est un protocole simple et qui ne coûte pas trop cher, parce qu'on voulait que ce soit une campagne citoyenne et la plus démocratique possible. Aujourd'hui, c'est le laboratoire qui est attaqué, mais par nos opposants, par monsieur Gilles Rivière-Werkstein, qui est un monsieur qui sévit depuis des années contre les faucheurs, contre les antipesticides, et qui est un lobbyiste, qui se dit journaliste, mais qui en fait travaille dans une boîte qui n'a rien de journaliste, qui attaque le laboratoire, parce que justement ce laboratoire trouve les résultats et contrairement à un laboratoire payé par Monsanto, trouve des résultats jusqu'à un feuille très bas, et pour l'instant, tous nos résultats sont positifs, on va dire qu'ils sont négatifs, hein, mais ils sont positifs, c'est-à-dire qu'il y a du glyphosate. Je peux m'assurer, je suis sûr que si Monsanto tenait les rênes de ce laboratoire, on aurait sans doute beaucoup moins de résultats positifs. Donc la preuve de la qualité de ce laboratoire, je vous dis, il est certifié depuis 1997, donc certifié par un organisme allemand, hein, par l'État allemand. On peut se dire que ce laboratoire est honnête et indépendant. Voilà. On a vraiment cherché, hein, et après il y avait des protocoles tellement compliqués qu'il y a certains laboratoires qu'on n'a pas pu retenir. Voilà. C'est un laboratoire allemand, hein, très connu, qui a un laboratoire vétérinaire, puisqu'il travaille beaucoup sur les matières organiques, sur les animaux. Mais nous sommes des animaux.
Moi, si j'ai bien compris, donc on va tous faire pipi ensemble à 5h du matin devant monsieur l'huissier pour les messieurs, madame l'huissière pour les dames.
Par exemple.
Voilà, ensuite tout ça part au laboratoire en Allemagne qui n'est pas payé par Monsanto. Et ensuite, comment ça se passe pour porter plainte, vu qu'on est des individus qui portent plainte contre des individus? Où est-ce que ça se passe? Enfin, voilà.
Dans la campagne, c'est une campagne collective, donc les prélèvements se font collectivement. Et les plaintes sont gérées par le groupe local aussi. C'est-à-dire, vous allez recevoir à un certain moment, une fois que les résultats sont revenus, vous allez les recevoir vos taux individuels. Alors, je vais être plus précis. Quand vous faites votre prélèvement, vous remplissez une feuille, nom, prénom, vous signez, et l'huissier attribue un numéro de fiole dans lequel vous allez uriner. Le laboratoire ne reçoit pas les noms des gens. Il reçoit un numéro de lot et des numéros de fiole. Au retour, vous allez avoir le numéro de lot et vos résultats qui ne sont pas nominaux. D'accord ? Le groupe local va faire la correspondance entre vos feuilles d'inscription et le consentement que vous avez signé, et ces résultats, les résultats vont être envoyés à l'huissier, qui va lui aussi faire ses correspondances, parce qu'il lui va avoir un double de cette liste. D'accord ? Vous me suivez ? Parce que c'est un peu... Voilà, mais je vais quand même être précis. Donc, une fois que l'huissier a les résultats et la feuille qu'il a gardée, il fait la correspondance, il a reçu de la part du groupe local vos consentements, parce qu'il y a un consentement à donner vu la protection des données personnelles, c'est obligatoire maintenant, il y a un consentement qui est signé, et la feuille d'inscription, le talon de la feuille d'inscription qui est joint, ça va être scanné par le groupe local, et il va joindre ça dans le procès verbal. Ça, c'est le premier point. Une fois que le groupe local a reçu le procès verbal, d'accord, il organise le dépôt de plainte. Voilà. Il va vous contacter, vous serez dans des listes, c'est là où il faut un consentement, justement, pour être dans les listes. Il va vous envoyer les dossiers à remplir pour les plaintes. C'est la même plainte pour tout le monde, petite différence pour les parents qui portent plainte au nom de leurs enfants. Puisque nous, on a des bébés qui ont fait leur prélèvement, des ados, donc ce sont les tuteurs légaux qui doivent porter plainte au nom de leurs enfants, donc il y a un petit formulaire en plus, un peu différent. Vous aurez tous la même plainte à remplir, vous remplissez, vous signez, vous mettez votre taux, et ces plaintes, soit vous y allez collectivement, si le groupe local le fait, nous c'est ce qu'on a fait pendant longtemps, on invite tout le monde à venir le même jour au tribunal et vous allez déposer vos plaintes, individuellement. Et pour ceux qui ne peuvent pas les déposer ce jour-là, il faut les renvoyer aux groupes locaux, les plaintes, et eux vont l'envoyer aux avocats qui vont se charger de le déposer à Paris. La plainte est actuellement... Les premières plaintes ont été déposées en Ariège, à Foix. Le tribunal a décidé que s'il était incompétent pour traiter ce genre de plainte et a saisi le tribunal de Paris, pôle santé publique, du tribunal de grande instance de Paris. C'est lui qui était en charge de ce dossier-là, et c'est très intéressant. Ce qui fait que toutes les plaintes de France et de Navarre vont arriver à Paris. Elles sont toutes jointes sur le même dossier. Il y a un numéro de dossier qui est créé. Toutes les plaintes vont être renvoyées à Paris de toute façon. Qu'ils soient déposés ici, ailleurs ou ailleurs, de toute façon seront renvoyées à Paris. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces plaintes vont donc être défendues par les mêmes avocats. On a un cabinet d'avocats qui s'est spécialisé, qui est au top, et je vous garantis qu'on les connaît depuis longtemps, c'est des super, c'est des militants. Ils sont heureux comme tout que cette plainte se pose. Ils font des tarifs préférentiels et ils sont hyper compétents. Pour préciser aussi un point important, l'investissement que vous allez devoir faire, c'est l'analyse et mutuellement, enfin en commun, payer les huissiers. Donc c'est 135 euros. Nous, campagne nationale, on va collecter, on a commencé, et on va continuer à faire des recherches de fonds pour prendre en charge tous les frais de justice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez déposé votre plainte, vous n'aurez plus de frais. Tout va être pris, tous les avocats, tous les frais d'avocat seront pris en charge par la campagne Glyphosate France, celle qui est créée en Ariège, pour éviter que vous n'ayez des conséquences ultérieures. Hein. L'idée, c'est que votre engagement, c'est participer à la campagne, payer vos analyses, évidemment, parce que c'est pas possible d'imaginer de les faire payer par d'autres. Mais c'est tout ce que vous aurez, et après, vous aurez peut-être une convocation un jour. Mais vous pouvez vous faire représenter, vous n'êtes pas obligé d'y aller, vous pouvez vous faire représenter par vos avocats, par nos avocats. C'est clair ? Voilà le principe. C'est une plainte individuelle portée collectivement. C'est une campagne, et qui dit campagne dit collectif. Voilà. Tout est porté collectivement. Il y a un moment donné, quand le procès se pointera à l'horizon, on vous demandera à tous, peut-être, de remplir des demandes d'aide juridictionnelle. Parce que c'est l'occasion de faire payer un peu à l'État sa déficience et qui contribue à payer les frais de justice.
C'est qui ?
Tu t'approches trop près de moi, toi, là-bas. Très bien, tu vas là, moi je vais là-bas. Donc c'est l'occasion de faire payer un peu à l'État des participer aux frais de justice. C'est la moindre des choses. Et donc on vous fera sans doute, on vous demandera à ceux qui peuvent le faire, de faire une demande d'aide juridictionnelle pour contribuer aux frais de justice. Mais ce n'est pas tout de suite.
Oui, j'imagine que les gens qui participent à l'expérience, à l'aventure, sont sociologiquement situés. Ils sont plutôt, disons, comme toi, comme tu le disais, plutôt branchés bouffe bio et tout ça. Est-ce que des mesures ont été faites dans une population, on va dire, moins ciblée, des gens qui se nourrissent avec des légumes de supermarché, pas dans les rayons bio et tout ça? Et est-ce qu'on a une petite idée des j'imagine que on trouverait des taux bien supérieurs. Est-ce qu'on a une petite idée des différences?
C'est l'objectif du questionnaire mode de vie, déjà, de pouvoir justement, puisque l'alimentation, la boisson, le type d'eau qu'on boit, tout ça est répertorié dans ce questionnaire. Ensuite, il est clair qu'au démarrage, on touche le premier cercle. C'est une évidence. Alors, les copains militants, les gens intéressés, voilà, c'est évident que nous, dès le départ, sur les 6 séances ou 7 séances de prélèvement qu'on a fait, au début, on touche les militants, les copains, les gens qui sont directement intéressés, les bio. C'est pour ça d'ailleurs que ça a tout de suite choqué, parce que c'était tous les gens qui bouffaient bio. Et qui en avaient tous, et pas qu'un peu. On a commencé à toucher le deuxième cercle, là, en Ariège. On touchera peut-être le troisième cercle, on espère avoir des agriculteurs, des cultivateurs, des viticulteurs, des gens qui manipulent ces produits ou qui les manipulent pas. D'ailleurs, hein, on a aussi des agriculteurs qui manipulent pas, qui ont fait leurs analyses. On espère trouver, on espère que ça va sortir de ce cercle-là, mais ça, c'est pas nous qui allons le décider, c'est eux. Charge à nous d'essayer de leur faire comprendre que c'est pas contre eux qu'on agit, hein. C'est aussi pour eux. Que moi, j'ai rien contre les agriculteurs. Hein. Moi, ça n'a jamais été mes adversaires. Mes adversaires, c'est ceux qui leur ont appris, hein, qui les ont fait croire qu'en utilisant ces produits, ils allaient nourrir la planète, et qui continuent à le faire, les techniciens des chambres d'agriculture, la FNSEA, qui continue à faire du lobbying. Moi, si je dois trouver des adversaires et pointer des adversaires, ça sera eux. On ne porte pas plainte contre les agriculteurs. Hein. Ce n'est pas l'objectif du tout, il ne faut pas se tromper de cible. Par contre, il est compliqué peut-être pour eux, et ça, il faut le savoir aussi, de faire le pas, d'aller peut-être à contre-courant. Hein. C'est pas simple de décider de faire autrement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas leur jeter la pierre aux agriculteurs. Il y a une demande, il y a là, pour vous.
Bonsoir. Du coup, par rapport à ce que vous dites maintenant, là, on est tous d'accord dans cette salle, c'est mon point de vue, là-dessus. Par contre, comment on va arriver à faire comprendre à tous ceux qu'on connaît et avec qui on n'ose jamais aborder le sujet, tout simplement parce qu'on sait, ah, c'est bon, hein, moi, je dis qu'il faut ça déjà un petit peu, de ça, c'est bon. Et à l'époque, on avait un vendeur, il le buvait devant nous, on l'a tous entendu, ça, presque. On a fait, moi, mes grands-parents en premier, sur le
moi, j'ai vu faire.
Voilà. Enfin... C'est ce que je dis, on est tous d'accord dans cette salle, mais après, comment arriver à montrer l'exemple correctement, que ça marche un peu avec tout le monde et pas qu'avec nous ce soir, quoi.
Je disais tout à l'heure que le seul moyen, c'est que cette molécule soit, c'est que ces produits-là soient interdits. Et qu'il y ait vraiment des financements publics pour que cette transition se fasse, mais on commence par interdire. Parce que il y a que ce moyen-là. Tant qu'on ne l'interdira pas, on reprolongera l'autorisation, parce qu'il y aura toujours le propos qui sera tenu. On peut pas s'en passer. Alors qu'on peut s'en passer, peut-être faut-il changer les méthodes culturales, peut-être y a-t-il une reconversion à faire. Certains l'ont fait, donc d'autres peuvent le faire. Il est évident que les tailles des entreprises, que l'outillage qui a été mis en œuvre et acheté à un grand coup de crédit, seront peut-être plus les mêmes. Il faut aider, il faut qu'il y ait vraiment une démarche nationale, une démarche volontaire des politiques en charge, qui, au lieu de continuer à autoriser, mettre de l'argent pour créer une transition possible. Après, la convaincre individuellement chacun des agriculteurs voisins, c'est bien de le faire.
Ça ira beaucoup plus vite que de penser que les politiques et tout ça...
On est d'accord là-dessus, sauf que voilà, c'est vraiment compliqué... Et il faut avoir ce lien qui existe. Bon, moi, je suis faucheur volontaire. C'est pas moi qui vais aller discuter avec les agriculteurs. Je ne suis pas. C'est compliqué. La relation est un peu difficile. Tout simplement, hein, je le dis clairement. Voilà. Et je comprends que ça soit difficile pour eux d'accepter la parole d'un faucheur volontaire. Mais si vous avez des voisins agriculteurs, des copains, des gens du village, parlez-en. Évidemment, c'est ça aussi la campagne citoyenne. C'est ça aussi l'engagement citoyen. C'est d'être capable d'en parler. Moi, j'ai quelqu'un dans le groupe, un des co-créateurs de la campagne, qui est d'une famille d'agriculteurs et qui, depuis que la campagne a été créée, dans sa famille, ils ont enfin abordé un sujet qui était tabou. Et ça commence à parler. Et là, petite fille qui a repris l'exploitation commence à envisager de se passer des pesticides.
Et qu'est-ce qui peut être fait par rapport au système de formation, puisque les lycées agricoles existent pour former les futurs agriculteurs?
Il y a les lignes bougent. Il faut le dire aussi, il y a quand même des lignes qui bougent. Hein. En lycée agricole, on commence à parler d'autre chose que du petit chimiste. Dans les revues agricoles, même la France agricole, qui était quand même le promoteur des gros machines et puis des produits chimiques, commence à avoir des articles plus intéressants. Même dans la FNSEA, ils commencent à... Parce que il y a une réalité de terrain. Ils savent très bien qu'un jour ou l'autre, ça va être interdit. Ils le savent. Parce que ce n'est pas possible autrement. Ça, un jour, ils vont devoir se passer de ce produit. Donc, ils commencent à travailler là-dessus. Le seul problème que nous, on ressent un peu dans les connaissances qu'on a, c'est que ce sont les plus éclairés d'entre eux, les plus au courant, justement, des évolutions de la loi, qui sont les premiers à commencer à travailler à la transition. Et il y aura toujours les mêmes qui vont se faire baiser à la fin, qui seront obligés de le faire, de toute façon, mais qui ne se seront pas préparés. Donc, on retrouve le lobbying, quand même, de la FNSEA et les méthodes que l'on connaît, hein, qui sont quand même un peu critiquables, pour être gentil. Une demande de parole au bout.
Oui, bonsoir. Oui, désolé. Donc, merci bonsoir. Beaucoup pour l'exposé, c'était très intéressant.
Merci.
Une petite question, donc combien de temps il faut compter entre quand on fait la prise d'urine et le résultat? Est-ce que c'est une semaine, deux semaines, un mois? Merci beaucoup.
Ça dépend du nombre de ponts qu'il y a entre les deux. Au mois de mai, c'est plus long qu'au mois d'avril. Généralement, l'envoi se fait en chronopost, donc le laboratoire le reçoit dans les 2-3 jours. Il envoie la facture. Il faut payer la facture. Donc le groupe local paye la facture, puisque c'est lui qui encaisse tout l'argent. Hein. Il paye la facture et ensuite, il faut compter entre 8 et 15 jours. Et ensuite, le groupe local reçoit les résultats, fait la relation et envoie, nous on l'envoie par courrier postal, envoie les résultats à chacun d'entre eux avec le taux qu'il a, le nombre d'analyses dans le lot, la moyenne du lot, le plus et le moins. Ce qui permet de se situer dans ce lot et de se dire, tiens, moi j'ai 0,8, je suis plutôt bas, ou j'ai 3,2, ah zut. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on fait, donc vous recevez vos résultats individuellement. Mais ça peut prendre 15 jours, 3 semaines.
Je ne sais pas si tu en as parlé. Est-ce que le projet de la campagne, il va durer combien de temps? Est-ce qu'il y a une idée? Bon, alors, il y a le côté, effectivement, faire passer l'info aussi sur voilà, la dangerosité du produit, etc. Mais avec 1000 analyses, déjà, c'est un échantillon intéressant pour aller au tribunal et être super puissant. Ou alors, il y a un projet vraiment précis. C'est quoi votre idée, là?
On n'a pas d'idée là-dessus. Hein. Tant que les gens veulent faire leur prélèvement... Tant qu'il y a des groupes qui sont prêts à l'organiser, et bon, ça va fatiguer aussi, hein, parce que c'est un gros boulot, pourquoi s'arrêter? Si on est 5000 à porter plainte, si on est 10 000 à porter plainte, ça a un peu plus de poids. Si on est 10 000 à avoir fait nos résultats, à avoir nos analyses et qu'on démontre qu'on en a tous et toutes, quel que soit notre âge et notre situation. Pour l'étude scientifique, si on a tramé toute la France, des régions céréalières, viticoles, etc., c'était bien aussi. Donc, et de continuer d'allumer les projecteurs tout le temps, on va être des milliers et lanceurs d'alerte, c'est ça aussi. Hein. C'est de dire, il n'y a pas que la campagne, je répète. Hein. Hein, il y a les coquelicots qui ont des milliers de pétitions. Actuellement, il y a une convergence et un faisceau de travail qui est fait, qui contribue tous à son niveau, à sa manière. Il y en a qui font des analyses de cheveux, Alors, voilà, y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui. Ce faisceau-là, c'est un faisceau gagnant. Voilà, pour moi, c'est un faisceau gagnant. Et si on est 10 000, c'est beaucoup mieux que d'être 1 000. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de chiffre maximum ni de délai. On peut s'arrêter quand on aura gagné, par exemple. Ça peut être une bonne raison de gagner. Et on passera aux autres pesticides dans la foulée, parce qu'il y en a d'autres.
Bonsoir. Donc moi, je voulais savoir, justement, il y a une association qui s'appelle Phyto Victime. Oui. Je voulais en revenir, justement, à l'idée des cercles. Bon, c'est une association qui est parrainée par Génération Future. Mais ce qui me semble intéressant dans cette association, c'est pas une association de bio, de consommateurs de bio, mais plutôt de gens qui justement sont dans le conventionnel et qui ont été victimes et qui sont malades, comme ce monsieur qu'on a vu dans le film, et qui sont accompagnés juridiquement dans leur maladie et tout ça, mais en fait c'est une toute petite association. Et je voulais savoir s'ils participaient à cette campagne, ou enfin voilà, si vous étiez en lien.
On a été en lien, mais ça n'a pas vraiment donné de suite. C'est compliqué, je ne sais pas pourquoi. Mais il n'y a pas eu vraiment de suite. On aurait aimé, parce qu'on trouve que toutes ces organisations font un boulot énorme. Après, il y a une différence notoire quand même à la base même du projet Campagne Glyphosate et ces associations qui défendent les victimes. C'est que nous, on est peut-être victimes déjà sans le savoir, et il y en a sans doute dans cette salle qui connaissent des amis qui ont eu un lymphome, un cancer, des problèmes de vessie, des problèmes de stérilité ou d'infertilité. Il y en a sans doute pas mal. Mais nous, on n'est pas parti, on n'y est pas en tant que victime. Donc c'est deux travaux différents. Et curieusement, on a travaillé avec les médecins qui défendent alertes aux pesticides. On a eu des contacts avec, surtout dans la région viticole, avec vers Bordeaux, etc. Et il n'y a pas eu de suite vraiment. Mais il y a eu aussi de notre faute, peut-être, qu'on est à la tête dans le guidon depuis des mois. Cette campagne a pris une ampleur qui nous a complètement. Voilà, moi, pour être clair, j'ai arrêté de bosser. J'ai arrêté de faire les travaux dans ma maison. J'y ai passé pendant pas mal de mois. 15 heures par jour. Et maintenant, ça commence à s'alléger un peu parce que le relais est pris dans les régions et le 12 est parti. Hein. Mais voilà, donc ça a été chronophage. Et maintenant, on va peut-être avoir un peu de temps pour reprendre ses contacts et approfondir ses relations.
Oui. Tu évoquais la campagne glyphosate, c'est quelque chose qui est long à mener, difficile. En même temps, tu évoquais les autres pesticides et des suites éventuelles, parce que les pesticides, ou on va dire plutôt molécules chimiques utilisées et en agriculture et pas qu'en agriculture, malheureusement, dont on est, aujourd'hui, on est tous aussi victimes de ces différentes molécules à tous les niveaux. Comment on peut avoir une convergence, à ton avis, de ces autres molécules? Parce que en étant que la campagne glyphosate aboutisse à l'interdiction du glyphosate, on a interdit le glyphosate, c'est très 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 bien, mais il y a tout le reste, quoi. Et donc, quelle convergence on peut avoir, justement, sur tout le reste, et mettre en place une prise de conscience, où vous avez, je sais pas s'il y a une réflexion là-dessus, ou si, parce que moi, j'ai du mal à voir comment on peut aussi rebondir.
La campagne glyphosate, en fait, c'est j'ai des pesticides dans mes urines, et toi? On a peut-être eu une petite erreur de com' au départ, on n'aurait jamais dû dire campagne glyphosate, on aurait dû dire campagne pesticide. Ça, c'est une réalité, maintenant c'est fait. Hein. Donc on assume, mais rien n'empêchera dans un an, trois mois, ou 10 ans, d'enchaîner sur le reste. Hein. Puisque, quand même, au démarrage, c'est les pesticides d'une manière générale. Il s'avère que le glyphosate est quand même emblématique. Hein. Moi, si je veux parler d'un malbouffe, je vais parler des McDo, par exemple. Tu vois, c'est symbolique quand même. Hein. Si je veux parler des grosses firmes semencières de merde, je vais parler de Monsanto. Donc le glyphosate, c'est quand même très emblématique. Et c'est ce qui est le plus vendu, le plus utilisé. Il faut savoir que après avoir été breveté comme un herbicide, c'est devenu maintenant, je ne sais plus en quelle année, il n'y a pas si longtemps, ça a été aussi accepté comme antibiotique. Voilà, donc le glyphosate, on l'utilise même en antibiotique maintenant. C'est assez ahurissant, mais c'est le cas. Il faut dire que c'est normal, ça tue tout. Donc ça tue les microbes aussi. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire après ? Ben, on verra après. Hein. Pour l'instant, on va déjà faire ça. Mais je suis d'accord qu'il faut commencer à le prévoir, et on l'a déjà dans la tête de se dire que si on arrive à gagner sur le glyphosate, on a mis un gros coin, parce qu'on gagnera par le mouvement citoyen, par l'implication politique, parce qu'il y a des politiques quand même qui... On est allé à Paris faire des années de prélèvements chez les députés, et il y avait des députés de En Marche, il y avait des députés de France Insoumise, il y avait Mme Bateau qui a fait ses prélèvements. Ça sera aussi par la loi, et peut-être par les réglementations européennes, comme on essaie de travailler au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne. Là, c'est plutôt faucheur, mais c'est... On est les mêmes, de toute façon, moi, j'y étais. Hein. Donc voilà, tous les moyens de lutte sont bons pour essayer d'aboutir globalement à une agriculture plus respectueuse de l'environnement, du vivant en général. Donc de nous, entre autres. Voilà. C'est vrai que ça va devoir passer par d'autres méthodes culturales, ça c'est sûr. Il faut que ça se fasse, il faut que ça puisse se faire, et il faut qu'on y travaille. Et que les agriculteurs essayent aussi de mettre la main à la pâte. Voilà, c'est très complexe, mais on doit y arriver, et il faut qu'on y arrive, parce que c'est plus possible autrement. Hein. Pour ceux qui douteraient encore des effets néfastes du glyphosate ou des pesticides, je les invite à aller faire un petit tour en Argentine. Et on l'a pas mis ici, je l'ai pas amené, on a une expo photo qu'on ne veut pas montrer devant les enfants. C'est une horreur. C'est tous les photos faites en Argentine sur les malformations, sur les catastrophes sanitaires. C'est le musée des horreurs. Et on ne le montre pas à tout le monde.
Il le disait dans le film, d'ailleurs.
Oui, il le dit bien. Hein. Et les conséquences, ici, on les connaît. Hein. Je veux dire, moi, je sais pas, mais... moi, le gros problème qu'avait ma maman, qui a maintenant 87 ans, c'était quand elle était jeune, c'est comment faire pour ne pas avoir d'enfant. Puisqu'il n'y avait pas de méthode contraceptive, vraiment. Et je pense que les anciens le savent. Les grands problèmes, beaucoup de problèmes de couple aujourd'hui, c'est comment en avoir. Et ça aussi, c'est un des effets directs des pesticides, on le sait. Hein, problème d'infertilité, de stérilité, problème de précocité pour les filles, pour les garçons, sur la puberté précoce chez les filles, des gamines de 4 ans qui ont leurs règles, des micropénis pour les garçons. Les résultats sont énormes. Et moi, je le vois beaucoup, hein, dans ma famille, hein, je connais beaucoup qui ont du mal à avoir des gamins, quoi. Et ça, c'est aussi un effet des pesticides, c'est clair, c'est connu, c'est répertorié, on le sait. Donc, aujourd'hui, on sait que toutes ces conséquences sont là, on est tous des malades potentiels. Moi, je bouffe bio, mais j'ai quand même un taux énorme. Après, peut-être qu'aujourd'hui, je vais uriner, j'en aurai moins. Puis que dans 15 jours ou dans un mois, j'en urinerai parce que je suis passé à côté de champs qui ont été traités. Ou que mon voisin a gardé quelques bidons de glyphosate qu'il a acheté en promotion avant l'interdiction, puisque non, c'est interdit à la vente. Il y a eu des stocks qui ont été écoulés monumentaux. Donc voilà, c'est la réalité, mais je vais peut-être me taire maintenant, je vais laisser parler les...
Moi, je voulais revenir un petit peu sur la question de l'échantillon et des biais qu'il peut y avoir par rapport à ça. Ça veut dire qu'on part déjà d'un principe, c'est qu'on serait contaminé au glyphosate à cause de ce qu'on mange, et donc si on mangeait bio, on serait pas contaminé. Et en fait, visiblement, c'est pas le cas. Donc, même si nous, on est entre gens avec une certaine conscience autour de tout ça ici ce soir, ça n'enlève pas à la pertinence de faire ces analyses-là. Et surtout, ça veut dire aussi que il y a d'autres endroits où est-ce qu'il faut aller, il faut aller chercher, et on boit tous de l'eau, quoi. Et donc même les gens qui vont au McDo, ils boivent la même eau que nous, quoi. C'est un peu ça le bilan à la fin, et on respire tous le même air, et que c'est un peu ces questions-là qui se posent. Et la question d'interdire par exemple le glyphosate, la campagne elle propose pas uniquement ça, elle propose de remettre en cause en fait les méthodes d'analyse et comment est-ce que ces produits se retrouvent sur le marché. Donc si on obtient une victoire sur la question du glyphosate, en fait on obtient une victoire aussi qui est plus large sur cette question-là. Et donc c'est un petit peu le sens de cette campagne. Et l'autre chose aussi, c'est le groupe scientifique qui est en train de se mettre en place actuellement en Ariège autour de ces questions, il a pour objectif de commencer à essayer d'apporter des réponses, ou en tout cas de proposer des intuitions qui devront être vérifiées par la suite, pour pouvoir avancer sur ces questions-là, et que nous qui sommes aujourd'hui des gens conscients des problématiques qu'il peut y avoir autour du glyphosate, et ben qu'on puisse s'en distancier avec justement des analyses scientifiques qui vont un petit peu plus loin. D'où l'intérêt aussi de pouvoir peut-être, plutôt que d'élargir entre guillemets le genre de personnes qui vont participer à la campagne, élargir aussi déjà le territoire pour pouvoir faire en sorte de couvrir une zone la plus large possible, et que justement ces résultats on puisse les vérifier à différents endroits indépendamment de tout ça. Et je pense que c'est vraiment moi, j'en ai parlé avec des amis qui sont pas spécialement conscients de la question écolo. Ça les choque de savoir que moi, par exemple, j'ai 3-14 de glyphosate. J'ai déjà fait les urines. Je suis quelqu'un qui essaye aussi de faire attention. Ça choque aussi le fait qu'on ait l'impression de faire attention. On est des gens engagés qui font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Et en fait, on est contaminé quand même. Et c'est là-dessus, je pense, que la campagne elle vient toucher quelque chose d'important avec cette question justement du principe de précaution sur la question du glyphosate, mais qui peut s'appliquer aussi à plein d'autres pesticides derrière.
Il y a une question qui me paraît importante, c'est de parler aussi de toutes les autres possibilités de pollution qui ne sont pas seulement des molécules, mais qui sont des nanoparticules. On ne parle pas du tout des nanoparticules, et ça peut être utilisé par le laboratoire qui crée des molécules comme le glyphosate, par exemple, pour dire, mais c'est pas seulement le glyphosate qui est en cause, c'est aussi, par exemple, les nanoparticules. Et donc, de renvoyer dos à dos des pratiques qui sont pas censurées par nos gouvernements ou nos agences, qui ne servent à rien, d'ailleurs, et qui sont prévues pour nous garantir une certaine sécurité. Et alors, je m'interroge en me disant, par rapport aux labos qui font les mises en place de ces analyses, de ces recherches, etc., s'il ne serait pas important de trouver un moyen de créer un labo indépendant complètement et qui s'attaque à tous ces problèmes, et pour ça essayer de trouver des financements, c'est-à-dire élargir le champ qui est mis en place actuellement autour de simplement des molécules, parce que je crois que les nanoparticules sont très très dangereuses aussi. Il y a d'ailleurs eu un jeudi en question là-dessus, et l'attention a été quand même bien mise en place sur ce problème. Donc je crois qu'il faudrait demander aux gens qui sont investis dans le contrôle de ces molécules de chercher aussi à élargir un petit peu leur capacité d'analyse sur d'autres éléments, quoi.
Nous sommes dans un monde de technologie où il y a, on parlait tout à l'heure du Linky, des électrosensibles. Il y a énormément de choses qui contribuent à nous rendre malades dans ce monde. Et malheureusement, c'est pour ça que la campagne existe aussi, l'État ne prend pas son rôle, qui est de... une de ses fonctions premières, c'est la sécurité de sa population. Il préfère faire financer, on le voit par exemple, il y a le projet Genius qui est en train de se développer avec l'Imagra, notre quatrième semencier au monde, et le premier entreprise qui vend de la farine boulangère en France. qui travaillent sur le blé transgénique. Hein, donc, et c'est financé, c'est l'INRA. Il y a 13 laboratoires de l'INRA qui travaillent là-dessus. Il y a l'Université de Lyon pour l'acceptabilité. Voilà, donc on est au stade où actuellement l'État finance des projets sur des développements technologiques ou génétiques qui vont à l'envers de ce qui est notre intérêt, nous, d'humains, de vivants, et pas que le nôtre, hein, de tout ce qui est vivant. Donc on est sur un État qui est totalement en perversion totale sur son rôle primaire. Et malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, mais ça se fait pas. Ces contrôles-là ne se font pas. Et il y a énormément de technologies qui sont mises en place, qui sont des technologies appliquées, des recherches appliquées, dans le but de faire du pognon, mais pas dans le but d'améliorer notre vie ou d'améliorer notre santé. Hein. Ça, c'est clair. Donc voilà, je suis désolé, mais je ne fais pas de réponse à ça, mais le constat, il est déplorable.
Je voulais te demander, ici Dominique, est-ce que tu pourrais redire sur la réglementation du Roundup où on en est aujourd'hui ? Parce que du coup, normalement, on n'en trouve plus à la vente, au public, dans le jardinier. Est-ce que tu peux repréciser ?
Oui, je peux repréciser. Les collectivités publiques ont été les premières à qui il a été interdit d'utiliser pour les entretiens des domaines publics. C'était il y a 2 ans ou 3 ans. Les municipalités n'avaient plus le droit d'utiliser le pesticide chimique. Donc ils ont trouvé des méthodes pour faire autrement, déjà. Depuis le 1er janvier 2019, c'est interdit à la vente, à l'usage et à l'étention les pesticides, le Roundup, tous les pesticides à base de glyphosate sont interdits chez les particuliers, je répète, à la détention, à l'usage, et c'est interdit dans les ventes de jardinerie. On ne peut plus acheter ces produits-là en jardinerie. Mais toujours autorisé pour les agriculteurs. Et pour la SNCF, qui est aussi un gros utilisateur, mais qui est un gros utilisateur relatif, puisque d'après les chiffres que j'ai vus, ça représente moins d'1% de l'usage du glyphosate, du volume de glyphosate utilisé en France. C'est normalement ramené, faut les ramener dans les déchetteries, je crois. Je crois que c'est dans les déchetteries, il faut les ramener en déchetterie, les bidons qui vous restent, tout ce qui est pesticides, ils sont à ramener en déchetterie. La MSA faisait une collecte. Oui, la MSA faisait une collecte, mais pourquoi la MSA ? Oui, pourquoi pas, non, bien sûr, pourquoi pas. Mais comme... Oui, mais les agriculteurs continuent à l'utiliser, ils ont le droit. C'est les particuliers qui n'ont plus le droit, mais enfin, c'est pas grave. Il y a des moyens de les déposer.
Juste, je disais ça pour préciser, attends, je suis là, oui. Que en plus des agriculteurs, il y a tous les professionnels du jardin, comment on les appelle, les horticulteurs, non, les paysagistes, voilà, oui. Qui ont encore le droit de l'utiliser.
Ça, je ne sais pas.
Et si, parce que c'est ça le problème, je sais pas, c'est qu'on croit qu'on n'en a plus dans notre environnement. Et ma fille a été témoin, juste pour donner un exemple, mardi dernier, à l'espace du jardin enfant, elle habite à Rennes, quoi, du magasin Décathlon, ils ont utilisé dans l'espace jardin enfant, ils étaient en train de... Enfin, il y avait un paysagiste qui était en train de passer du Roundup, quoi.
Super.
Et tout autour aussi du Décathlon. Donc, il y a tous ces paysagistes. Donc, dans notre environnement, même en ville, on peut en trouver encore, puisque ces gens-là, ou même chez votre voisin, s'il fait appel à un paysagiste, il peut en mettre dans votre jardin. Vous n'avez pas le droit d'en mettre, mais le paysagiste, lui, il a le droit d'en mettre, quoi, apparemment.
D'accord.
Donc, c'est ça aussi. Puis dans les cimetières aussi. Ça, par contre, dans les espaces publics, il paraît qu'ils en utilisent énormément.
C'est sûr que les morts ne craignent plus rien. Mais quand même. Voilà. Donc, il y a effectivement beaucoup d'usages. Et c'est là où il faut trouver le moyen de faire que ça soit totalement interdit partout, quoi.
Je me permets juste une petite précision. Je ne voulais pas clore le débat, mais je vois qu'avec l'heure qui tourne, il y a des gens qui s'en vont. Avant de partir, n'oubliez pas qu'il y a des bulletins d'inscription. Si vous ne nous laissez pas vos coordonnées, on ne pourra pas vous contacter. Les bulletins d'inscription ne sont pas disponibles actuellement sur Internet, le but étant que les gens soient informés bien comme il faut de la campagne avant de s'inscrire pour les prélèvements. Donc voilà, n'hésitez pas à les remplir. Merci.
Merci d'avoir dit.
On va peut-être prendre une dernière question. Une autre là-bas, il y en avait deux qui avaient demandé.
Bonsoir et merci. J'ai un problème technique important. J'utilise exclusivement de l'eau de pluie. Et il y a un vrai problème de filtration. Je ne l'ai pas résolu. J'en suis même réduit à me dire si je vais voir un industriel qui pour acheter la pozzolane ou faire les charbons, ce qu'il faut, parce que il y a plusieurs sources de collecte de l'eau. Donc il faut un filtre portatif qu'on puisse appliquer quand on transvase et qu'on concentre, etc. Je passe des tisanes et sur la vigne notamment, et même pour tout le reste, quoi.
Bien sûr.
Et j'ai besoin de filtrer en permanence parce que l'eau est des glaces. Hein, si vous mettez un baquet au milieu du champ qu'il pleuve, allez-y 2 heures après, c'est effarant. Le lendemain, c'est effarant, c'est tout noir au fond. Donc je filtre, j'en jette un tiers, je prends le dessus, c'est du bricolage, quoi, c'est pas du boulot.
Ben oui, on est bien d'accord. Hein. Même l'eau de pluie, on peut purifier, il y a des microparticules, il y a des pesticides, il y a des pollutions.
Il n'y a pas moyen de filtrer?
Les filtres à osmose inverse, on enlève une grosse partie, mais je ne suis pas sûr que tout soit... Et puis c'est des filtres qui coûtent assez cher et qui consomment pas mal d'eau. Puisqu'il faut... Les filtres auto-nettoyants en osmose inverse consomment 3 fois plus de l'eau que l'eau filtrée. C'est-à-dire, pour filtrer 1 litre, il faut en consommer 4. Et 3 qui sont rejetés. Et ces 3 qui sont rejetés sont remplis de saloperies. Donc c'est assez compliqué, hein, je suis d'accord. C'est comme l'eau potable, enfin l'eau qu'on dit potable au robinet, la seule chose qu'on ne peut pas faire avec l'eau potable, c'est de la boire. C'est très bien pour les chiottes, c'est très bien pour nettoyer sa voiture, mais on ne la boit pas parce qu'elle n'est pas bonne, déjà. Et puis elle n'est pas clean du tout. Hein. Donc c'est assez ahurissant. Hein. On en est toutes les eaux potables. Enfin, il y a actuellement une norme hein, européenne, c'est maximum 0,1. Il y a beaucoup de dérogations pour dépasser.
Une dernière question là-bas au bout.
Oui, bonsoir. Juste une remarque, il me semble qu'avant-hier, il y a eu une victoire aux États-Unis d'un agriculteur qui a gagné, qui a fait reconnaître son cancer comme ayant pour origine le glyphosate, justement. Et avec des milliers de plaintes derrière aux États-Unis qui, peut-être, du coup, vont pouvoir... déboucher de façon plus générale. Il y avait un autre point aussi que je voulais évoquer. Il me semblait que c'était Génération Future qui avait mis ça en évidence. Ils avaient mesuré que les poussières dans l'air qui se retrouvaient jusqu'à 2 à 4 kilomètres des champs dans lesquels ça avait été épandu contenaient du glyphosate. Et c'était pas dû tant à l'épandage qu'au mode de respiration de la plante qui, tout au long de l'année, recrachait le glyphosate. Donc c'est pas juste au moment de l'épandage, c'est vraiment tout au long de l'année, et ça touche des gens jusqu'à 4 kilomètres aux alentours, etc. Et après, juste une dernière remarque aussi sur le point, pour dire que malheureusement, toutes les pollutions se potentialisent, les personnes qui sont chimico-sensibles, et c'était le professeur Belpomme qui avait mis ça en avant, sont aussi souvent électro-hypersensibles, car ce sont les mêmes marqueurs biochimiques. Et parce que par exemple, pour les personnes qui sont dites électro-hypersensibles, et ça concerne 3,3 millions de Français, officiellement selon l'ANSES, il y a une ouverture de la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau de tous les polluants, qui s'ouvre sous l'influence des champs électromagnétiques. Et du coup, pour 3,3 millions de Français, a priori donc pour forcément plus, ça va potentialiser l'effet de tous les perturbateurs endocriniens, dont le glyphosate. Donc malheureusement, tout se potentialise et rien ne peut réellement se dissocier. Voilà.
Je suis complètement d'accord là-dessus. Et c'est vraiment le gros problème, hein, ce qui fait qu'on est dans un cocktail permanent. Alors pour revenir au procès, en deux mots sur les procès aux États-Unis, ce sont des personnes qui ont directement des effets sur la santé reconnus par soit des expositions massives et accidentelles, soit par des expositions régulières et qui ont pu prouver ou qui prouvent que la maladie, et on sait qu'il y a quelques reconnaissances comme ça en France, hein, après des longues batailles, certains agriculteurs, comme Alain Moll, qui est décédé entre-temps, avait réussi à avoir une reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle sur sa maladie de Parkinson. Il y a le lymphome non-Hodgkinien aussi. qui est directement lié. Et aux États-Unis, c'est beaucoup de plaintes sur les agriculteurs qui sont atteints d'un lymphome non Hodgkinien et qui portent plainte contre Monsanto. Et donc, il y a, je crois, actuellement près de 11 000 plaintes dans le monde contre Monsanto sur les problèmes de glyphosate. Et peut-être qu'avec la France, on va doubler le chiffre. Mais nous, c'est pas que Monsanto. C'est tous ceux, parce que la molécule glyphosate a été mise dans le domaine public depuis quelques années, donc tout le monde peut s'en saisir. Et tout le monde s'en est saisi, bien évidemment.
Mais votre analyse d'urine, c'est qu'en France, il y a eu d'autres pays.
Il y a eu des analyses d'urine en Allemagne. Alors, je ne me souviens plus du nom de... Mais eux avaient choisi une méthode qui ne décelait pas en dessous de 0,5. Ce qui fait qu'ils arrivaient à 73% de gens qui avaient plus que 0,5. Et nous, on a choisi de démontrer que tout le monde en avait. Et donc, on a choisi un laboratoire qui détecte à 0,075. Le but étant là, mais c'était moins cher. L'autre, on avait pris contact avec eux. J'ai complètement oublié le nom, mais on le retrouvera facilement. Et ils avaient quelques milliers d'analyses, je crois 2000 analyses qui ont été faites sur les analyses d'urine glyphosate. Mais eux, ils avaient plus un travail médical. Ils trouvaient des corrélations entre les maladies et ils ont établi une carte et on est en contact aussi avec eux. C'est un peu comme ce dont on parlait tout à l'heure. On a eu un contact, mais tellement la tête dans le guidon qu'on n'a pas pu poursuivre ce contact. Mais on espère bien le reprendre.
Bon, je crois qu'on a quand même bien fait le tour de la question. On n'est peut-être pas au bout des 360 degrés. Mais...